Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les séries. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Bruno Gagnère-Fontanini, réalisation Thomas Beau. Et autour de moi, en effet, très bien entouré, Lucille Como, Florence Colombani, Joseph Gauss, pour parler ensemble de La Casa des Papel, disponible sur Netflix. Et nous parlerons également de Fierté de Philippe Faucon, disponible sur Arte plus 7 jusqu'au 16 mai.
Jusqu'au 16 mai.
Merci oui. Boris Pino. Et en DVD chez Arte Éditions. Et puis nous parlerons de Barry, d'Alec Berg et Bill Hader, qui est en cours de diffusion sur OCS. Boris Pino, combien d'entendre, est également avec nous pour nous m'aider dans les moments où je cherche des informations, mais aussi pour donner à entendre vos commentaires via Twitter ou Facebook, et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le spectacle The Sea Within de Lisbeth Grevetz. Ce sera pour jeudi 17 mai à 21h au Nouveau Théâtre de Montreuil, à l'occasion des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Nous ouvrons cette dispute avec une série qui fait beaucoup parler d'elle, après avoir fait très peu parler d'elle, La Casa des Papel. La saison 1 était apparue sur la plateforme Netflix dans une relative discrétion. Je dois dire que c'est ma plus jeune fille qui m'avait incité à regarder cette série. La saison 2, elle est disponible depuis le 6 avril sur Netflix. Et entre les deux saisons, un certain engouement s'est créé autour de cette histoire de braqueur espagnol, mélange de surdoué et de brut au grand cœur, qui joue avec les nerfs de tout un peuple, et surtout ceux de la policière chargée de gérer cette situation de crise, puisque pour rappel, on a une prise d'otage dans la fabrique nationale de la monnaie, organisée par un professeur, qui se trouve lui à l'extérieur et qui supervise l'opération qu'il a prévue dans ses moindres détails et son véritable plan, faire rester son équipe une bonne dizaine de jours dans les lieux pour imprimer le plus de billets possible pour pouvoir évidemment partir avec.
Habéis llegado donde habéis llegado, ya es algo épico, así que de verdad te doy mi más sincera enhorabuena.
Oído, activo plan B.
¿Es verdad eso que han dicho antes?
¡Vamos, señores! ¡Que no me caiga!
Si vamos a robar lo grande, soñad a lo grande.
¿Es en serio?
Este es un momento maravilloso.
Madre mía, esto ni los americanos. Esto marca España, pero con M16, toma ya.
La Casa des Papel. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle dans le bureau, on se dit bon, on programme pas. C'est vrai que la saison 1 a été sortie sans aucune communication de la part de la plateforme Netflix. C'est pas vraiment le cas de la saison 2. On a vu des affiches un peu partout dans nos villes, en tout cas sur les flancs de bus et dans les métros, pour annoncer cette saison 2. Il faut dire d'ailleurs, Lucille Como, pour rectifier l'histoire, que c'est sur Antena 3, la chaîne privée espagnole, que la série a été diffusée, créée, produite en une saison. Vous avez des informatrices, je crois, en Espagne, qui vous ont confirmé la chose.
Qui n'a pas l'air très certaine non plus du succès espagnol. Je pense qu'il est à peu près équivalent, mais que c'est pas non plus. Elle l'a vu assez rarement.
C'est pas un phénomène national.
Assez récemment.
Votre informatrice, non.
Apparemment, pas particulièrement. Peut-être pas plus que chez nous, en tout cas.
Alors, c'est une série en une saison, d'épisodes de 60 minutes, redécoupée en deux saisons de 40 minutes par épisode pour Netflix. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, au-delà de ça, Lucille Como, premier regard sur Casa des Papel.
C'est vrai que c'est une série qui est extrêmement efficace. Moi, j'ai tout vu d'un coup là en quelques semaines, et ça c'est vraiment l'atout principal de la production. Si on décortique un peu justement cette efficacité, en fait ça, c'est assez comparable. Enfin, moi ça m'a beaucoup fait penser à une série qui est maintenant vieille, qui a une douzaine d'années, du moins sa première saison, qui était Prison Break, dont la première saison avait moi, avait bien marché sur moi, puisqu'elle partage beaucoup de choses. Prison Break, c'était aussi ça se passait dans un lieu clos qui était une prison, et c'était l'histoire d'une évasion, quelque chose de très classique. Là, on a à nouveau le ressort du huis clos, puisque une grande partie de l'action se passe en effet dans ce palais de la Monnaie, parmi les personnages, donc à la fois les braqueurs et les otages du palais de la Monnaie. Il y a ce personnage fascinant qui existe depuis toujours dans la fiction, notamment la fiction sérielle, du maître de cérémonie génial qui a un plan parfaitement bien coordonné dans sa tête et qui a toujours une longueur d'avance à la fois sur la police, évidemment, mais aussi sur le spectateur, ce qui crée évidemment un ressort d'efficacité. Et puis, il y a cette autre chose assez jouissive, c'est cette impression, et ça c'était vraiment aussi le cas dans Prison Break, qu'on atteint toujours un niveau où c'est pas possible, ils vont pas s'en sortir, et en fait ils s'en sortent, pour pas trop dire, ça va être compliqué de pas trop dévoiler, mais il y a quand même un moment où le cerveau de l'affaire se retrouve dans un commissariat pour autre chose, on va pas dévoiler, mais il est là dans un commissariat à donner ses empreintes et à devoir dire son nom. Donc on attend des niveaux de pression sur l'intrigue qui sont quand même assez déments. Bon, c'est une efficacité qui est quand même très très putassière dans ses effets, il faut le dire aussi. Il y a quand même notamment une musique.
C'est bien dit.
Non, mais je sais pas comment dire autrement, parce que franchement, il y a ça, c'est extrêmement m'as-tu vu, notamment la musique est horrible. Là, on l'a un petit peu entendu dans la bande-annonce, mais c'est très pénible parce qu'il y en a quand même beaucoup, surtout dans les moments de pression.
Je dirais plutôt que de
mais il y a aussi de la musique, hein.
La musique,
espèce de rock,
bien, mais...
oui, très moche. Il y a aussi beaucoup de ralentis dans les scènes d'action qui font vraiment penser à des films d'action américains des années 80, des
sous
films
Kong,
d'action.
Etc.
Oui,
enfin, bon,
assez terrible, notamment un passage en moto, toute une scène d'action en moto, donc voilà. Et puis, il y a aussi ces espèces de tic-tac, qui font très vieux aussi, très ringard,
très
du chronomètre,
chrono.
Voilà, qui font des pauses en permanence pour nous indiquer les heures. Mais bon, en dehors de ces effets-là qu'il faut supporter, c'est vrai, ça fonctionne quand même bien. Moi, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout.
Bon, on creusera certains détails. Joseph Gosn sur Casa de Papel.
Alors, j'étais tout d'abord assez déçu, notamment par rapport à ce immense bouche à oreille de tout le monde qui à un moment s'est mis à parler de cette série en disant qu'elle était incroyable, etc., extrêmement addictive. J'étais pas très pris par les premiers épisodes, même je me suis pas mal ennuyé parce que effectivement on revoit des choses qu'on a déjà vues ailleurs dans le cinéma. On pense à tous ces films de braquage, je pense aussi à des comics, notamment aux X-Men où il y a un personnage qui s'appelle le professeur aussi et où c'est un peu ce même principe. Je pense aussi à certains scénarios d'Alan Moore qui sont comme ça, où il y a toujours des personnages extrêmement bien où le scénario est tellement fort, ciselé et démonstratif aussi, que on est tout le temps dans la surprise, etc. Sauf que là, bon, au début, la surprise, toutes ces surprises-là m'intéressent pas beaucoup. Les effets, effectivement, sont un peu gros. Je m'y suis intéressé à partir du moment où, en fait, j'ai pris parti pour le personnage pour ce personnage féminin du détective, de la romance qui commence à se lier comme ça avec le professeur. Et à partir de ce moment-là, ça m'intéresse un peu plus. Et après, au fur et à mesure, j'aime bien la façon dont ça évolue et j'aime beaucoup la fin, en fait. J'aime beaucoup la fin. Je trouve que, notamment, les derniers épisodes sont vraiment très réussis, même graphiquement. Et c'est ça aussi qui m'a assez accroché. C'est davantage cette espèce de espèce de violence assez graphique, espèce de ballet, mais on comprend plus grand chose, où l'espace qui a été pas mal exploré, l'espace de cette banque, en fait, de cette maison du papier, ce palais, voilà, ça il y a des choses qui se jouent là qui m'ont plutôt bien plu. Et après, même si dans le fond tout ce côté graphique peut aussi être renversé. On peut se dire, finalement, tout ça, c'est assez cliché. C'est-à-dire, eux, ils ont les masques qu'on voyait dans V for Vendetta d'Alan Moore. Les masques qui sont aussi les masques d'Anonymous, ils sont en rouge. Les flics sont en noir. Donc, il y a une vraie, on peut en avoir une lecture un peu bateau de à la fois lutte des classes, lutte communisme, fascisme, etc. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez touchantes, assez sensibles, assez prenantes. Moi, c'est plutôt la lecture autour du désir amoureux et du désir sexuel qui m'a davantage intéressé, parce qu'il y en a beaucoup dans la série, ça circule énormément. de ce point de vue-là, et tout tend à ça, et ça se termine évidemment par ça, sans rien divulguer ou gâcher, et on sent que finalement, bah en fait, c'est vraiment ça qui tient l'ensemble, et la façon dont ça circule dans cette espèce de maison entre guillemets, dans ce palais, c'est ça qui me tient le plus.
Florence Colombani, votre regard sur Casa de Papel.
Oui, moi j'ai eu aussi un peu ce regard qui a évolué, parce que je trouve qu'au début on est quand même un peu écrasé, en effet, par la vulgarité de la mise en scène, la vulgarité de ce nombre de références, mais qui est tellement, qu'on en a la nausée, qui est tellement ces références qu'on est obligé d'avoir en tête parce qu'on vous les brandit aussi. C'est pas du tout fait dans l'hommage, mais c'est vraiment dans l'utilisation. Et je pense que on n'a pas parlé de Tarantino, mais je pense que ça c'est avant tout l'influence de cette série. Et dans la mesure où Tarantino est lui-même quelqu'un qui retravaille des choses déjà existantes pour les réinventer d'une façon pas forcément si neuve, mais tout est dans le réagencement. Le fait de réagencer du Tarantino, c'est aussi le problème de toute une part du cinéma américain que celui-là, c'est-à-dire réagencer du Tarantino. Finalement, on est dans du maniérisme sur du maniérisme, et ça devient assez insupportable. Je me suis du coup beaucoup interrogée sur les raisons du succès, et je pense que au bout d'un moment, on se rend compte que ce qui plaît, je pense, et ce qui finit par nous plaire, et ce qui fait qu'on finit par rentrer dedans quand même, c'est ce croisement bizarre d'ADN espagnol et de référents américains. Et ça montre, je trouve, quelque chose d'assez triste, qui est comme on a soif de fiction qui viennent d'ailleurs, et d'entendre une autre langue, et de voir des lieux différents. Bon, et finalement, tout cet habillage à l'américaine est ce qui parasite le plaisir qu'on a à être dans un univers qui est autre quand même. Et je trouve que même le succès de Bella Ciao, enfin la redécouverte, disons, par une jeune génération de Bella Ciao comme un hymne, quand même d'une sorte de contre-culture, puisqu'il y a ce message politique dans la série. On est avec des Robins des Bois, on est dans du braquage qui a une bonne conscience sociale, et donc Bella Ciao prend aussi ce sens, une nouvelle couche de sens politique.
Voilà, en fabriquant de la monnaie, on ne vole pas aux gens.
Exactement.
On fait comme les États font, c'est-à-dire on fabrique, on fait tourner la planche à billets à notre bénéfice.
Et on retourne la mécanique de l'État contre lui-même. Mmh. Ou même ce plaisir de Bella Ciao, la chanson des partisans italiens, ça a à voir avec ça. C'est ce plaisir de l'altérité qui n'est pas l'américain. Donc voilà, moi c'est le seul enseignement fondamentalement que je tire du succès de la série.
Alors plusieurs choses, mais c'est vrai que sur la dimension hispanique, c'est vraiment une chose que j'avais, qui me semble être un atout évident, mais d'abord par la langue. Vous parliez de la vulgarité de la mise en scène, on pourrait parler de la vulgarité des dialogues, mais qui font partie du plaisir. Ça nous change des F et trois petits points américains. Là, on a toute une panoplie de jurons espagnols qui reviennent très, 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 très souvent. Autant que chez Tarantino reviennent les mots qui commencent souvent par F. Donc, il y a cette forme d'exotisme qui marche bien, mais il y a aussi un jeu assez outré, parce que tant qu'à parler de Tarantino, on peut aussi parler d'Almodovar, qu'on n'avait pas encore cité jusque-là. Et il y a quand même une école de jeu hispanique qui est dans une sorte de chose paroxystique, et quand un père et un fils se prennent dans les bras, ils se prennent vraiment dans les bras, et quand... non, mais il y a quelque chose, je crois que le succès aussi vient peut-être de cette... c'est quelque chose qui nous est plus proche, si tant est qu'on se considère comme latin, ce qui est mon cas, que des fictions nord-américaines ou anglo-saxonnes. Joseph Gauche.
Effectivement, il y a quelque chose d'assez outré dans l'expression des émotions qui fait qu'on s'accroche à ça. Il y a aussi quelque chose d'assez poussé et toujours outré dans cette représentation de la contestation. On est dans une époque qui cherche la contestation, etc. Et là, on la voit en forme, et on la voit dans une forme extrêmement pensée et qui a l'air de fonctionner à toutes les étapes. Et comme le disait Lucille tout à l'heure, c'est vrai qu'à chaque fois il y a de la surenchère, et à chaque fois ça marche. Et donc effectivement, le spectateur qui vit dans une époque où il voit tout ça finalement autour de lui par bribes se dit oui, ça peut être concentré quelque part. Et avec aussi cette idée du rapport à l'argent, comme vous le disiez, papier. C'est vrai que finalement, ils ne volent rien, mais ils fabriquent. Et alors qu'aujourd'hui, on est dans un moment où l'argent, en fait, est de plus en plus dématérialisé, immatériel, et qu'on parle de plus en plus de monnaie de substitution, etc., etc. Ça résonne aussi sans doute chez le spectateur qui est, par rapport à toutes ces questions-là, un peu paumé.
Et sur l'outrance aussi, avant de vous redonner la parole, vous parliez de ces Florence Colombani, références qui sont ultra affichées, etc. Moi, je crois que c'est aussi une partie du succès parce que, du coup, on a une sorte de concentré, là encore, de tant de références, mais avec une forme d'excellence. C'est-à-dire qu'on va prendre ça, le pousser au maximum. Tout le monde reconnaît les emprunts qui sont, en plus, comme vous l'avez bien expliqué, démultipliés. Et donc, il y a cet effet de reconnaissance qui est toujours quand même la chose que l'on cherche aussi dans les séries, c'est-à-dire être dans un certain confort et un tout petit peu bousculé, mais pas trop. Enfin, donc, je pense qu'il y a tout ça qui joue aussi. Lucille Comot ?
Oui, moi, je pense qu'en fait, ce qui nous tient, c'est une référence qui est profondément européenne et probablement très latine. En fait, c'est le romantisme et c'est ça, ces histoires de bandits au grand cœur qui volent, mais pas pour
d'amour. Hein.
Et puis, alors, il y a trois c'est totalement d'amour, articulé. La question politique, elle est totalement articulée à la question amoureuse. C'est-à-dire que c'est sous cette grande égide du romantisme à l'ancienne, et je pense que c'est ça qu'on reconnaît. Et de ce point de vue, je trouve que le jeu des acteurs est pour le coup très hétéroclite, parce qu'il y a toute la bande des jeunes, et puis en effet le père qui va un petit peu avec le jeune, et cette fameuse Tokyo qui fait mine au début d'être un personnage principal. J'ai eu un peu peur, parce que c'est quand même un petit peu compliqué, puis la voix off qui est la sienne, c'est difficile à
écouter.
Celle
qui raconte l'histoire.
Voilà. Ouais. Mais il y a quand même deux personnages qui sont des personnages masculins, et éventuellement aussi l'inspectrice, mais qui sont donc les deux chefs, hein, en réalité, celui qui est à l'intérieur, celui qui est à l'extérieur, donc le fameux cerveau et le professeur, et un qui s'appelle Berlin.
Parce qu'ils ont donc tous des noms de villes,
et qui ne jouent pas du tout de la même manière, des choses un peu plus subtiles en termes d'expression, même de diction. Enfin, moi, je comprends pas bien l'espagnol, mais on voit bien que celui qui s'appelle Berlin, qui est une sorte de héros assez noir, suicidaire, extrêmement machiste, à la limite de la violence, et pour le coup un personnage extrêmement ambigu, qui est un personnage profondément romantique et qui, à mon avis, ne pourrait en effet pas être un personnage de série américaine. Et je crois que c'est ça qu'on aime aussi, c'est reconnaître un fond archaïque, littéraire, cinématographique, qu'est le romantisme. Et d'ailleurs, ça marche apparemment extrêmement bien auprès de très jeunes populations, de collégiens et de lycéens. Et je pense que il y a une articulation entre la question amoureuse, le romantisme, la question politique un peu Robin des Bois, qui forme une sorte de package romantique ultra prémâché, qui fonctionne super bien avec les jeunes.
Florence Colombani.
Oui, et puis il faut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne toujours très bien dans le film de braquage, mais qui est bien utilisé ici, qui est la métaphore de la mise en scène. Avec elle, professeur, qui est une sorte de génie de la mise en scène. Le fait qu'on a quand même le plan en tête, mais ensuite tout l'intérêt c'est de voir la différence entre le plan et son déroulé et comment la vie s'immisce entre le projet et la réalité et vient tout contrarier. Et donc ce ressort-là, ça fournit une sorte de superstructure qui est très solide et qui a fait ses preuves.
Joseph Gosse.
Il y a aussi l'idée, je crois, du moment présent, c'est-à-dire que toutes ces histoires d'amour, tout ce romantisme, il se déroule là, dans ce théâtre, dans ce cirque, à ce moment-là, et ça marche aussi pour ça, parce que ça résonne aussi beaucoup en nous, en se disant tiens, c'est génial, c'est une flamme qui brûle là, maintenant, à l'instant, et d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, ils disent rien ne m'attend dehors, et tous les personnages dont on n'a vraiment pas du tout envie, ce sont ces personnages finalement d'otages qui eux disent « Ah, ça fait 20 ans que je suis dans cet endroit, etc. » Et on n'a pas du tout envie de cette altérité-là. Et c'est vrament ce qui ancre, c'est vraiment l'instant et se dire bah « Oui, ça existe maintenant et c'est comme ça et autant mourir maintenant. »
Quelques commentaires, Boris Pinot, sur les réseaux sociaux.
Oui, un mot de Ninon sur Twitter. J'ai adoré le premier épisode. Je trouvais la saison pleine de promesses. Mais très rapidement, elle devient pleine d'invraisemblances et les personnages n'ont pas de profondeur. Oxymore trouve la série très bonne. Un mix ibérique entre 24 heures chrono et Usual Suspects. Et Tristan Kopp écrit sur une écriture, justement, qui joue avec les gimmicks et l'horizon d'attente du spectateur pour mieux le surprendre. La Casa des Papel, c'est du très bon. Vive la langue espagnole.
Oui, ça, on est heureux d'entendre l'espagnol, on l'a déjà dit. Lucille Comot, avant de relancer.
Non, mais juste sur la langue, il y a des moments mythiques. Moi, j'avais pas toujours un stylo avec moi, mais pour noter dans la voix off, des fois, des invraisemblances, pour le coup, de langage, j'en ai juste noté une. Ah. Tokyo, à un moment, dit « Parfois, j'aimerais que la vie soit une télécommande avec un bouton pour faire une pause de 5 minutes. » Si on fait chier 2 secondes, ça veut dire c'est complètement aberrant. Et ça, il y en a, mais
que la vie soit une télécommande.
Ah, oui, ouais, des sortes de métaphores un peu existentielles. Et ça, c'est vrai que quand même, ça plombe un peu.
Non mais la voix
c'est incroyable. Est clairement la voix,
adolescente qui est en plein dans cette action là.
Oui, ça va pas bien. Il faudrait aussi disserter, on n'aura pas vraiment le temps, mais quand même étonnant que ces formats de 60 minutes aient été redécoupés en 40 pour la diffusion sur Netflix, parce que forcément, je comprends mieux pourquoi certains épisodes se terminaient sans ce qu'on appelle en bon français cliffhanger. C'est quoi la traduction québécoise? Il faut que je regarde le point culminant qui donne envie de regarder l'épisode d'après. Donc forcément, ça tombe pas juste. Et puis quand même, juste dire, sans dévoiler la fin, mais quand même, que Netflix, fort de ce succès inattendu, produit une saison 3.
C'est comme Prison Break, quoi.
On va peut-être se retrouver avec une franchise, parce qu'on n'a pas évoqué les Ocean et Calque de Steven Soderbergh, mais c'est
la Banque de France.
On peut imaginer un autre braquage à venir.
À la Banque de
France. Ça vous semble une bonne ou une mauvaise idée? Parce que c'était une série qui était faite pour être close sur elle-même.
Moi, je trouve que déjà terminer un film de braquage correctement, c'est difficile et ils s'en sortent bien. Ouais. Alors vraiment là, ils se mettent encore plus en danger.
Vous n'aimez pas les Ocean 11,
12, 13, 14? Si, le 11, je trouve pas mal. Après, ça va pas bien.
Ça va pas bien loin. Bonne ou mauvaise idée, Joseph Gosne?
Oui, je pense que c'est plutôt une mauvaise idée parce que là, ça se tient en soi. La fin est suffisamment romantique pour se dire ah super. Bon. Arrêtons là.
Bon, Florence.
Oui, je suis d'accord.
Bon, on ira voir peut-être quand même par curiosité. En tout cas, les saisons 1 et 2, puisque c'est comme ça qu'elles sont présentées sur Netflix, de la série d'Alex Pina, le Casa de Papel. Je pense qu'Alex Pina aussi doit avoir pas mal de proposition d'écriture qui arrive dans sa boîte aux lettres en ce moment. Tant mieux pour lui, il le mérite. Disponible donc sur Netflix, Casa de Papel, à suivre dans la dispute, la mini-série de Philippe Faucon sur les droits des homosexuels en France. Et puis une nouvelle série courte cette fois, plutôt humoristique, on verra à quel point, Barry.
France Culture,
la dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Dispute consacrée ce soir aux séries, donc. Alors là, fierté, il s'agit d'une mini-série, à vrai dire, puisque constituée de 3 épisodes de 48 minutes, diffusée sur Arte, également éditée en DVD par Arte. C'est Philippe Faucon, cinéaste justement césarisé pour son beau film Fatima, qui a réalisé Fierté, projet qui lui a été proposé et dont il a ensuite co-écrit le scénario à travers l'histoire d'un couple d'hommes. La série revient sur 3 temps forts. 1982, premier épisode, dépénalisation de l'homosexualité. 1999, la loi créant le PACS. Et 2013, la loi sur le mariage pour tous.
Épouse-moi.
Pardon ?
Je sais que tu vas me dire que t'es malade. Ça va, je suis pas aveugle.
Je suis pédé. Et j'aurai pas d'enfant.
T'es malade, mon pauvre garçon, qu'est-ce que tu veux que je comprenne ?
Je te parle d'amour et toi tu me parles de...
C'est juste dégueulasse !
C'est ton Roger qui est dégueulasse, papa. Je suis désolé, hein, mais je ressens pas le besoin de porter des banderoles ou... d'affirmer ma différence face au monde entier.
T'es l'homme de ma vie, Serge. Je t'aime.
Fierté, réalisé par Philippe Faucon, c'est Joseph Gosse qui commence à nous en parler.
Absolument. que dire
Par quoi commencer?
Par quoi commencer? C'est vaste et à la fois chronologique. J'étais très très accroché à toute la série. Peut-être davantage au tout premier épisode qui se passe. Donc vous l'avez dit, en fait, qui commence en 1981, juste avant l'élection de François Mitterrand, et qui se déroule surtout en 1982, avec le rapport qui commence en fait sur un père qui découvre l'homosexualité de son fils, mais qui finalement est simplement qu'on pourrait rapporter à la découverte d'un père de la sexualité de son enfant. Et quand on suit la série de ce point de vue-là, elle est extrêmement attachante et assez bouleversante. Les rapports du père et du fils, le fils étant le personnage principal qui va traverser toute la série, sont ceux qui traversent vraiment l'ensemble et qui constituent toute la série. Et je trouve que leur rapport évolue de manière assez évidemment tapageuse, violente, etc. Mais ça marque à chaque fois les époques, ça marque aussi le vieillissement et évidemment ça marque le rapport à l'amour, puisqu'il s'agit pour moi en tout cas essentiellement de ça. Vous allez croire que je suis obsédé par ça, puisque j'en parlais aussi dans Casa de Papel, mais je crois que ça traverse vraiment toute la série, ce rapport à l'autre, le rapport amoureux, et comment ce rapport-là vous pousse finalement à essayer d'agir dans une société, et voir comment vous pouvez changer la société et comment le changement de la société fait que ben, en fait, vous, votre évolution amoureuse s'inscrit dans ça ou pas.
Mais vous donc, pourrez dire ça pour Barry en plus, donc ça c'est pratique.
Exactement. Tout à fait.
J'imagine.
Plus ou moins.
Message.
Ou
moins. C'est dans une quinzaine de minutes.
Voilà. Mais je mettrai des nuances pour Barry. Parce que...
C'est pas le pareil, mais quand même.
Mais en tout cas, là, ça m'a vraiment extrêmement touché. Je vous dis surtout ce premier épisode qui est très chargé. Et puis ensuite, toute l'évolution, évidemment. Oui, ça. J'ai eu l'impression de ça me racontait vraiment toutes ces 30 dernières années que j'ai traversées aussi, mais là je les vois avec un autre regard, une autre sexualité, d'autres revendications que les miennes, et d'un coup ça me raconte aussi la vie que j'ai traversée. J'ai trouvé ça assez fort et assez bouleversant en fait. Voilà.
Florence Colombani, premier commentaire sur Fierté.
Oui, ce que j'ai trouvé très beau, c'est que c'est présenté, et à juste titre, comme trois épisodes qui coïncident avec trois grands moments pour les homosexuels en France, c'est-à-dire la dépénalisation de l'homosexualité, le Pax, le mariage pour tous. Et en même temps, c'est pas du tout fait comme ça, c'est pas du tout tressé comme ça dans les épisodes. C'est-à-dire que ce qui est au premier plan, c'est l'intime, c'est la vie... dans toutes ces nuances, dans toutes les complexités des rapports entre les gens, et l'événement politique est là, et bien sûr on mesure la portée de l'événement politique à chaque fois, mais c'est presque en creux. On n'a pas trop de moments, je trouve, qui essaient de souligner la synchronie entre les étapes de la vie de Victor et ces moments-là. Et c'est tant mieux, parce que c'est une façon du coup de montrer la grande histoire par l'histoire singulière d'un personnage, et d'éviter par le singulier, de toucher vraiment l'universel, sans essayer d'être trop général. Et c'est évidemment cette qualité d'empathie qui fait la beauté de ce que fait Philippe Faucon en général, et c'est le cas ici, et aussi une direction d'acteur qui est vraiment remarquable. Je trouve que Victor, dans ses deux incarnations, qui sont donc Benjamin Voisin et Samuel Tess, je pense qu'on dit, est magnifiquement joué, vraiment un personnage avec beaucoup de nuances et une profondeur. Alors moi, ma frustration vient du format. C'est-à-dire que c'est trois épisodes assez courts, et que pour beaucoup de choses, j'en aurais vu plus très volontiers, et je trouve que ça aurait gagné à être développé. Là, on dit mini-série, mais oui, c'est mini, c'est contraint par le format. Et je trouve ça dommage, parce que il y a aussi quelque chose dans la télévision française qui est un peu toujours limité à ces formats de 50 minutes, comme si c'était vraiment la seule façon de produire de la série. Et on a envie de plus grands récits. C'était un roman, cette histoire, c'était pas des nouvelles. Voilà.
Lucille Gaumont, à présent, sur cette mini-série de Philippe Faucon.
Alors moi, je suis nettement moins positif. Je trouve vraiment pas que ce soit une bonne série, au sens où je crois pas que ce soit une très bonne fiction. En même temps, je trouve l'objet très attachant, et je comprends tout à fait qu'on puisse être ému. D'ailleurs, je l'ai été aussi par moments. En fait, ce qui me dérange, c'est que les personnages, à mon avis, et c'est peut-être du fait du format, j'y avais pas pensé avant, mais en effet, c'est court, ne se déploient pas et restent, à mon avis, des supports. Vous dites que les grands événements ne sont pas tant que ça appuyés. Peut-être pas, mais en tout cas, ce que le scénario considère être comme des événements de la vie de tout homosexuel, à savoir le coming out, le couple, la question de la mise en couple, l'adoption, le rapport aux parents, l'exclusion familiale, le militantisme, sont un peu déroulés dans un ordre chronologique qui laisse un peu entendre que c'est un peu une commande. Enfin, on imagine qu'il y a une contrainte pour Philippe Faucon, qui est la contrainte de l'engagement, qui est tout à fait louable, mais qui, du coup, je trouve, donne pas forcément quelque chose de formidable. En fait, ce que je me suis vraiment dit à la fin, c'est que je pense qu'il y a une contradiction dans le projet qui se fait entre la pudeur, qui est vraiment le propre de la mise en scène, du travail de cinéma de Philippe Faucon, qu'on a vu dans son dernier film Fatima, où c'était vraiment une qualité propre, et la volonté pédagogique qui est justement de montrer, une démonstration. Donc entre la suggestion qui est son fort, vraiment dans les scènes d'intimité, dans les scènes de dialogue, et la démonstration, bah, du coup il y a une contradiction, je trouve, qui résout jamais. Moi je trouve, au contraire de vous Joseph, que notamment les scènes de dialogue entre le père, joué par Frédéric Pierrot, et le fils, qui soit jeune ou après un petit peu plus âgé, sont assez pénibles, parce qu'on sent on sent un peu, là c'est vraiment méchant ce que je veux dire parce que je le crois pas vraiment, mais un peu le clip d'éducation civique. Quelque chose de, qu'on pourrait montrer à des élèves pour leur expliquer ce que c'est que potentiellement un coming out qui tourne mal ou qui tourne bien. Ce que je trouve vraiment dommage parce que par ailleurs, il y a des effets de mise en scène, parce que je ne vais pas dire que ce n'est pas mise en scène, qui sont les effets, qui sont du ressort de la mise en scène de Philippe Faucon, dans les scènes de chambre, toujours en dialogue, à deux, jamais appuyé, il n'y a pas de musique du tout. Enfin, tout ça est très beau, mais au final, les personnages, moi, je n'y crois pas vraiment. Je n'ai pas d'attache, je ne vois pas plus de profondeur que juste des surfaces de projection pour un propos qui est ce qu'il est, qui est un propos beau, mais pas plus bouleversant que ça.
Bon, bah je vais plutôt rejoindre Lucille Comeau. Moi, j'aurais beaucoup aimé, d'autant que Philippe Faucon, c'est vrai que c'est un cinéaste qui compte depuis très longtemps, et je me souviens qu'il y a plus de 20 ans maintenant, il avait notamment signé un film qui s'appelait Muriel fait le désespoir de ses parents, qui était justement l'histoire d'une jeune fille découvrant et cherchant à assumer son homosexualité, qu'il le faisait très bien sur un format de long métrage en suivant une personne à un moment de sa vie. Moi, je crois qu'il y a ce problème de base de 3 fois 48 minutes pour raconter 30 ans d'histoire d'une lutte, quelle que soit la lutte. Je pense que c'est absolument impossible. On avait parlé dans la dispute de la série When We Rise, qui traitait aux États-Unis du même sujet, sur une période légèrement plus longue, mais c'était quand même 8 fois 48 minutes. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et malgré tout, la série américaine prenait elle aussi beaucoup de raccourcis, quand même, parce qu'il fallait être efficace. Et moi, j'ai effectivement eu l'impression de voir un déroulé de scènes édifiantes, illustratives, avec en effet des dialogues qui ressemblent davantage à des éléments de langage à visée pédagogique qu'à quelque chose de véritablement incarné. Je ne mets pas en cause les comédiens qui font ce qu'ils peuvent, mais je pense que ce n'est pas vraiment possible de très bien jouer ce type de scène. J'étais heureux de retrouver le jeune Sami Outal-Bali qui joue Selim Jeune, qu'on avait repéré dans Les Grands, la série d'OCS. Il avait déjà le rôle du collégien homosexuel, mais bon, mais voilà, mais il est très très bon, très très fin. Je pense que Philippe Faucon, en effet, moi je vais valider la thèse Lucille Comeau et dans une contradiction qu'il n'arrive pas vraiment à résoudre, parce que du coup il n'y a pas d'épaisseur psychologique individuelle, alors même que la série s'attache à suivre le parcours d'une personne en particulier, avec quelques personnes autour. Donc c'est un peu compliqué, alors que j'ai comme vous, Joseph Gosse, vécu ces périodes, j'ai à peu près l'âge du héros, enfin, donc ça me parle tout à fait. Florence Colombani ?
Oui, je trouve qu'il y a un beau moment pour parler de ce que Philippe Faucon réussit vraiment, c'est la visite de l'assistante sociale que joue Chiara Mastroianni. Où elle est là pour déterminer si Victor va pouvoir adopter ou non. Et je trouve que là, on est dans une scène justement où le dialogue n'est pas trop explicatif et où on sent les incertitudes.
Parce qu'il y a un enjeu dramaturgique.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. Oui. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe devant la caméra à ce moment-là.
Et on sent les incertitudes d'une vie vécue au présent et pas une vie regardée de façon rétrospective avec la conscience de là où on en est aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui fait la force de certains moments de la série.
Joseph Gosse.
Mais en fait, moi j'aime bien ce côté éphémère et la rapidité de la série. Et j'aime bien ce passage qui montre finalement justement de manière rapide et un peu jetée de ce que c'était qu'être homosexuel en 1982 et de ce que c'est que de l'être. À la fin des années 90 et dans les années 2000, et notamment, pas tant sur le fait d'être homosexuel, mais finalement d'être dans une parenté de cet ordre-là. C'est-à-dire que dans le premier épisode, c'est son homosexualité qui est la cause de la violence de ceux qui l'entourent, et notamment à l'école. Et la série se termine sur la violence que subit l'enfant qu'il a adopté. Et de ce point de vue-là, je trouve que il y a quelque chose qui est pointé et qui est assez juste, auquel on ne pense pas forcément, et qui est que finalement, en fait, ce qui n'était pas accepté il y a 30 ans l'est aujourd'hui, mais c'est autre chose qui est en jeu. Et ça rejoint pour moi le rapport à son père et ce qu'on raconte effectivement à ses parents, le coming out, etc. Et comment on fait pour défendre son enfant. De ce point de vue-là, moi j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé cette rapidité et ça m'a touché pour ça aussi.
Non, mais il y a une justesse évidente. Je ne remettais pas ça en question parce qu'effectivement, il y a notamment une scène des trois générations. père-fils héros et donc fils adopté, on voit très bien, enfin, il y a un jeu de miroir qui est tendu pour dire, tu vois, tu as mal réagi, toi et moi maintenant, enfin bon, et c'est très, très, très bien fait. La justesse du propos, pour moi, pas en question, Lucille Comeau.
Non, mais même du point de vue politique, c'est assez passionnant même de revoir à quel point, au début des années 80, les gens, puisque les parents du héros de Victor sont des gens de gauche qui attendent, mais depuis des mois, la victoire de Mitterrand, qui en parle en permanence.
La première scène
et pour qui la question justement des mœurs est une question qui se pose encore. Alors qu'aujourd'hui, à l'inverse, si la question économique à gauche est si problématique, elle, la question des mœurs est totalement réglée. Donc c'est assez drôle de voir ça. Après, juste sur les acteurs, peut-être pour revenir justement sur la scène avec Chiara Mastroianni, il y a quand même, à mon avis, des acteurs qui s'en sortent mieux avec le type de dialogue. C'est-à-dire que, et c'est pas forcément un problème de bon ou mauvais acteur, à mon avis. C'est un problème de ce que les acteurs sont capables de donner avec leur corps, en contexte de dialogue aussi figé. Et je pense que Stanislas Nordet, qui peut-être parce qui vient du théâtre, s'en sort particulièrement bien parce qu'il a une palette d'expressivité qui fait que même avec quelque chose de figé dans l'écriture, il s'en sort de la même manière. Je trouve qu'Chiara Mastroianni aussi s'en sort très bien. C'est moins évident pour d'autres. Moi, j'ai un petit peu de mal, j'avoue, avec Samuel Tess, le héros, que je trouve en fait presque invisible. J'ai même du mal à le voir imprimer l'écran, tellement je trouve inexistant dans sa manière de porter le dialogue de Philippe Faucon. C'est assez injuste pour les acteurs, je trouve, ce type d'exercice.
J'étais très heureux d'apercevoir, on la voit peu, Sophie Quinton, qui joue l'amie de Victor, adulte, Aurélie, qui est une très belle comédienne, alors pour le coup, qui a une présence très forte, notamment avec une histoire d'enfant qui est importante dans Fierté. Boris Pinault, quelques commentaires ?
Oui, Rémi Sabran sur Facebook parle d'une série qui a le grand mérite d'exister, servie par un casting brillant. Au rayon des nuances, ce sont les mêmes que pour Fatima, le dernier film de Philippe Faucon. Un cinéma de la réalité pure, parfois un peu terne, sans fantaisie dans les plans. Vera Shain, amatrice des plus anciens films de Faucon, justement, dit avoir eu un mal fou à regarder Fierté. Sans doute une impossibilité à voir un naturalisme conservateur et un minimalisme vieillot. Luc Hernandez, lui, n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est quand même très mauvais Fierté. Il parle d'un plus belle la vie gay. Et enfin, Dan Bix sur Twitter salue une excellente fresque, toujours juste, et portée par une distribution épatante.
Bon, on a des avis un peu contrastés, mais vraiment la question de la durée, même si j'entends bien le plaisir de Joseph Gauss, est-ce que ça aille vite ?
Ça va vite et on a... C'est-à-dire que
ça survole quand même, non ?
Oui, mais parfois c'est pas grave si ça survole. Si vous voulez, moi en fait, bizarrement, alors c'est vraiment extrêmement bizarrement, ça me fait penser à La Boum en fait. Vous voyez, avec cette rapidité des situations et ce côté un peu du ridicule des situations. Justement, il y a certaines situations il y a certaines scènes, notamment vers la fin avec le fils qui se retrouve dans une fête et puis il y a la fille qui fait venir là, qui se retrouve droguée, il y a les parents qui arrivent. C'est assez ridicule, mais on est dans un truc un peu, vous voyez, je sais pas, ça m'a fait penser à La Boum, au ridicule de ces situations-là, et je me suis dit oui, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose d'un peu, de touchant.
Je sais le comment.
Mais c'est un bon exemple ce que vous citez comme scène, parce que c'est précisément, à mon avis, le problème, c'est que ce passage-là, il est commandité, entre guillemets, par une intention qui est de montrer une confrontation entre le couple homosexuel et leur fils adopté, et un couple de gens qui sont visiblement profondément homophobes, et qui, évidemment, mettent sur le compte du jeune homme l'accident, entre guillemets, qui est arrivé à leur fille, à savoir l'overdose, enfin... la prise de MD. Donc, et on voit très bien, enfin moi je trouve que c'est ultra téléphoné, on voit très bien pourquoi il y a eu cette scène. Et je trouve que là, il y a quelque chose de la théorie qu'on veut absolument intégrer dans la fiction, qui va contre le processus de la fiction lui-même, puisque c'est ce que vous dites, la vraisemblance est totalement menacée par le procédé. Donc ça pose quand même un petit peu de problème de fiction, quoi, tout simplement.
Dernier mot, on s'arrête là-dessus, concernant Fierté avec...
Disons que c'est à l'image de la chanson de son générique, qui est, si on se souvient bien, une reprise de Noir Désir. C'est-à-dire une chanson...
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié.
C'est une chanson assez populaire, très comme ça...
Version neurasthénique.
Très neurasthénique. C'est un peu ça, mais c'est assez plaisant. Je n'aime pas du tout ce groupe, mais j'aime bien cette chanson. C'est un peu ça, cette série.
Bon, écoutez, voilà, c'était le résumé de Joseph Gauss concernant Fierté de Philippe Faucon, disponible encore quelques jours sur Arte plus 7, et puis d'ores et déjà en DVD chez Arte Éditions.
France Culture,
La dispute.
Arnaud Laporte.
Oui, la troisième série au sommaire de cette dispute, c'est un troisième genre, en fait, très différent, puisque nous parlons à présent de Barry, série américaine d'un format de 30 minutes, dont la première saison compte 8 épisodes. 7 ont été diffusés à ce jour en France et sur OCS, qui est diffusant, comme on fait maintenant, US plus 24, c'est-à-dire suivant de très près la diffusion aux États-Unis. Alec Berg et Bill Hader ont eu donc l'idée de départ suivante, et si un tueur à gages devenait comédien. Bill Hader est dans le rôle titre, la série va donc le suivre, ce tueur vaguement dépressif, qui semble beaucoup s'ennuyer, qui est un vétéran d'Afghanistan, qui a l'air un peu d'un empêché social, et qui va tomber sur une communauté d'apprentis acteurs de Los Angeles, et il trouve qu'il est bien accueilli, donc il se dit que peut-être il faudrait qu'il reste avec eux et qu'il change de vie.
Business has been going great. Recently, personal matters cropped up, which needs to be kept separate from the business.
What you need is a world-class assassin, and I happen to be very close with one. Barry?
Barry.
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 Who are you?
My queen, the lord, my lord, the queen is dead.
That's not, I can't, I can't, I'm sorry.
I just got lying.
Barry, à découvrir en France sur OCS. Alors avant que Joseph Gauss nous dise que ce qui l'intéresse, c'est l'histoire d'amour.
Pas vraiment.
D'abord le point de vue de Florence Colombani sur cette série.
Alors moi j'ai été très séduite par Barry, mais ça prend du temps. Je pense qu'il faut prévenir le spectateur potentiel qu'il faut accorder le temps à cette série de se faire comprendre, parce que c'est un drôle de point de départ, c'est un drôle de mélange. C'est comme un cocktail qu'il faut découvrir petit à petit. Et il y a un moment où ça devient vraiment très bien. Je pense qu'il faut aussi savoir qui est Bill Hader. Alors c'est un comédien très connu aux États-Unis, avant tout pour Saturday Night Live, et c'est un imitateur de génie. Si vous cherchez sur YouTube des sketchs avec Bill Hader, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement doué et qui peut se transformer. J'ai le souvenir d'une parodie de There Will Be Blood où il faisait un Daniel Day-Lewis, mais extraordinaire, plus vrai que nature.
Et il jouait un peu moins fort que Daniel Day-Lewis, c'est tout. Il n'arrive pas à surjouer autant.
Et donc je pense que tout le défi pour lui de Barry, c'est ça, Arnaud, c'est de s'effacer. Enfin, parce qu'il a cette capacité à surjouer et à sortir de lui-même, à faire des voix, des grimaces, tout ce qu'on peut imaginer de ce genre d'acteur protéiforme. Il a eu envie d'être une sorte de buvard complètement, enfin une page blanche. Et donc le tueur en série Barry, c'est vraiment quelqu'un qui n'a aucune capacité d'acteur, parce que c'est une sorte de Forrest Gump presque. Enfin, c'est un personnage qui est dans une sorte
Forrest
de débétude,
enfin, mort d'un commis voyageur, quoi. C'est, voilà, on y va.
Et ce rapport au monde décalé fait que, en effet, quand il met le pied dans un cours de théâtre par hasard et que on lui parle comme un être à peu près normal, capable de donner la réplique, il est sidéré, bouleversé. Il décide qu'il a sûrement une vocation d'acteur. Et c'est là que la série est vraiment extraordinaire. C'est dans sa caricature du monde du théâtre et des cours de théâtre.
Caricature ou réalisme.
ou compte-rendu tout à fait réaliste. Et notamment grâce au personnage que joue Henry Winkler, qui était le Fonzie de Happy Days, et qui joue à la perfection une sorte de gourou, à la fois gourou pour ses étudiants qui quand même suivent tout ce qu'il dit, et en même temps lui il auditionne pour le rôle de quelqu'un qui fait la queue pour un sandwich et qui a deux répliques, donc il est dans la contradiction terrifiante de l'acteur raté qui enseigne Shakespeare à de très mauvais étudiants. Ils sont vraiment tous très très mauvais. Et donc le mélange finit par être très réussi, et je pense qu'il y a quelque chose qui a inspiré au fond Barry, et c'est un peu improbable, mais je pense que c'est Mulholland Drive. Il y a un moment où ça m'est apparu que le mélange d'humour noir autour de la mort et de la de quelque chose de très sombre qui appartient à Los Angeles, en même temps c'est cet univers du film noir de Los Angeles, et la peinture du monde des acteurs ça nourrit, enfin ça irrigue Barry, et je pense qu'il cherche, à travers notamment le personnage féminin, à retrouver un peu cette magie de la scène d'audition de Mulholland Drive, où on la voit une première fois jouer la scène de façon mécanique, et ensuite on la voit jouer la scène de façon totalement inspirée, parce qu'elle ressent une émotion réelle. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui est un peu ce que cherche la série sans tout à fait y arriver.
Lucille Como, votre sentiment à présent sur Barry?
Alors moi, c'est plutôt l'inverse du chemin qu'a fait Florence, c'est-à-dire que j'ai été très très enthousiaste au premier, voire le deuxième épisode, et puis mon intérêt s'est largement dégonflé par la suite. Moi, je trouve que ça ressemble pour le coup à beaucoup de choses et que c'est assez très vite identifiable, notamment ça ressemble à une série qui s'appelle Weeds, pour le coup c'est à peu près comme Prison Break, ça doit avoir une quinzaine d'années, et c'était une série où une femme de banlieue assez chic, d'ailleurs aussi dans la Californie contemporaine, vendait de la drogue, pas parce qu'elle pouvait plus vivre, mais pour avoir un standing de vie à peu près équivalent à celui de ses voisins. Et donc on avait exactement comme dans Barry cette cohabitation du médiocre, de la vie un peu la petite vie en Californie, un peu des losers, et puis l'extraordinaire du film d'action, du film de drogue, de la mafia, etc. Donc là ça fonctionne un petit peu de la même manière. Moi, ce que je trouve qui ne fonctionne pas très bien, justement, c'est que les deux aspects, ces deux aspects qui, quand il y a un vrai choc, ça fait forcément un peu des étincelles, finissent par se confondre. C'est-à-dire qu'on perd un peu d'intérêt, je trouve, à la longue, dans l'intrigue mafieuse, entre guillemets, qui s'effiloche beaucoup entre les différentes communautés qui passent par là en très peu de temps. Il y a les Tchétchènes, il y a les Boliviens qui débarquent. Moi, j'avoue, j'ai pourtant regardé ça assez rapidement. Je sais plus exactement où on en est de cette intrigue-là. Et ces personnages de mafieux finissent par ressembler en tout point, je pense que c'est fait exprès, aux personnages qui peuplent par ailleurs le cours de théâtre, qui sont largement aussi dingues et psychopathes que les mafieux. Je pense que c'est fait exprès, mais ça finit par donner un truc un peu un gloubi-goulba de personnages qui se ressemblent avec un humour qui s'effiloche un peu. Donc ça me plaît assez moyennement. Et il y a autre chose qui me dérange un petit peu, c'est la manière dont est traité le personnage de Barry, qui est donc en effet complètement patibulaire. Enfin, il a exactement tout le temps la même tête, quasiment tout le temps. Il est raide comme un piquet. Et on sent que l'enjeu de sa propre crise d'identité va évidemment émerger au bout d'un moment dans la série. Et je pense que le dernier épisode, ça va forcément être de ce domaine-là, du craquage, de la remise en question totale. Et toute l'espèce de truc un peu théorique sur, il va se révéler parce que dans un cours de théâtre, on est obligé de donner de soi pour savoir bien jouer un personnage, point un petit peu à travers les cours théoriques du fameux monsieur Cousineau là, qui donne les cours de théâtre. Et ça m'intéresse moins. Je sens le potentiel un peu grave et un peu bon esprit qui va débarquer. Et ça me plaît pas trop. Je trouve que le cynisme, on le perd et c'est dommage.
Enfin, Joseph Gosse, avant que je vous en dise peut-être quelques mots aussi.
Alors moi j'adore le gloubi-boulga.
Oui. Deuxième citation.
Et tout à fait.
De l'île aux enfants.
Et j'aime beaucoup Barry. Et pour rebondir sur une remarque de tout à l'heure, je trouve qu'il y a quelque chose de lynchien. Et moi ça m'a fait penser, enfin son personnage me fait penser à l'une des incarnations de l'agent Cooper dans la troisième saison de Twin Peaks. C'est-à-dire cette incarnation qui est juste une espèce de neutralité sur pattes et qui ne fait que répéter ce que les autres disent. Donc là il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça me fait dire que c'est une série qui a quelque chose d'assez philosophique sur qu'est-ce que c'est qu'être au monde, notamment quand on revient d'une guerre et qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est Stallone, le premier Rambo de Stallone il y a 30 ou 35 ans. Sauf que là il est en Californie, il est dans une relation avec une espèce d'agent macro qui le place pour aller tuer, et la relation entre les deux est assez drôle dans le côté usurier et gangster au rabais. Là, on entendait tout à l'heure dans le générique sont justement cet agent Fuchs qui vend son tueur en disant c'est un tueur, c'est un
world class mondiale.
Quand vous le voyez, c'est quand même juste rien du tout, quoi. C'est juste un pauvre type qui s'est tiré, qui n'a aucune émotion.
Il a l'air assez efficace.
Quand même.
Très, très efficace. Oui, mais c'est ça, oui, il est efficace, mais Mais justement, c'est pas le tueur tel qu'on l'imagine. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez passionnant, c'est-à-dire on est en Californie et il est face à des tueurs, une espèce de mafia tout aussi minable, évidemment sanguinaire et comme ça un peu folle, mais au fond absolument débile. Et moi, j'adore ce personnage, le personnage de Noho Hank, toute la série et heureusement qu'il est là. Il apporte à la fois une espèce de d'humour, de n'importe quoi, de ridicule et de grand absurde qui donne une saveur assez joyeuse.
Ah oui, il a des conversations extraordinaires. Ouais. Mais
surtout, notamment quand il converse avec Fuchs au téléphone, ouais, lorsqu'il croit que Barry est mort à un moment, il parle de lui d'une manière tellement peinée. Et à la fin, il dit au fait, on va te tuer aussi.
Enfin, oui, voilà, quand même, on te tue malgré tout.
Vous
sentiez l'histoire d'amour poindre, c'est ça qui vous a plu entre
Je ne sais pas, mais le théâtre, en tout cas, il y a quelque chose, en tout cas, dans cet ensemble qui tourne évidemment autour de l'idée qu'on est tous des acteurs et notamment les mafieux en premier.
Oui, alors c'est vrai que moi, le chemin, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, le septième épisode qui est à ce jour le dernier diffusé est vraiment celui qui m'a le plus plu à ce jour, parce qu'il choisit quand même une voie de la comédie un peu délirante, et moi j'aime beaucoup l'arrivée justement du mafieux bolivien et la conversation qu'il a avec le mafieux tchétchène, avec notre camarade qui essaye de comprendre ce qui se dit au bout du fil, et la conversation dure longtemps, et d'ailleurs quand les policiers eux-mêmes écoutent, parce qu'ils ont une écoute téléphonique évidemment sur les portables tchétchènes, écoutent la conversation, n'en reviennent pas de ce qui peut se dire entre soi-disant deux chefs de cartel de drogue. Moi j'aime beaucoup ce virage-là, vraiment très très délirant, et je suis aussi d'accord avec vous sur la dimension lynchienne, puisque dans tout bon Lynch, il faut qu'il y ait un vieillard inattendu, et donc là, ce sera le cas. Je ne dirai pas de quelle façon il arrive, mais il y a un vieillard qui arrive à un moment donné.
Ça c'est quand même une des
séquences aussi que j'aime beaucoup. Donc c'est en train de prendre un virage. Mais attendez pas, moi j'ai regardé avec quand même pas mal de...
Au début, c'est un peu, ouais, c'est un peu poussif. On
un
dit
peu
bon,
poussif. C'est une... on n'y croit pas, mais c'est... au début, c'est un problème.
Oui.
Et ça l'est de moins en moins. J'aime. C'est qu'il y a une liberté qui est prise par la série. Vous avez quelques commentaires, Maurice Pinault, sur Barry ou pas? Oui.
Oui, un mot de Elsa Steelbreaker sur Facebook. Une série absolument fantastique, originale, très influencée par le cinéma des frères Cohen, qui ne fait que confirmer l'immense talent du trop rare Bill Hader. Une très grande réussite.
Qu'on avait réussi à pas citer les frères Cohen, mais ils peuvent faire partie de la liste. Florence Colombani, vous voulez ajouter?
Il y a aussi une sous-intrigue que j'aime beaucoup, qui est la passion dévorante de Gene Cousino, donc le prof de théâtre pour
la flic.
La flic qui est en charge de l'enquête, qui donne lieu à des scènes quand même très très drôles autour d'une sorte de fétichisme un peu étrange, enfin un rapport un peu sadomaso, mais en même temps très tendre, qui s'improvise et qui ne donne lieu qu'à quelques scènes, mais à chaque fois avec un potentiel de délire quand même très fort. Je pense que vraiment c'est une série qui va se bonifier avec le temps.
Lucille Comeau.
Oui, parce qu'en fait, Cousino, c'est pas du tout un loser. En fait, il réussit à peu près tout ce qu'il fait. On a l'impression qu'il va rater, et en fait, il réussit quand même assez dur. Juste sur le dernier épisode dont vous parliez, et sur le délire, c'est étonnant que vous citiez précisément ce dernier épisode qui se termine, enfin, on va pas tout dire, mais quand même par un retour au bon sentiment. Enfin,
mais non, au contraire,
évident,
moi je trouve ça très drôle, la scène finale du septième épisode qu'on ne dévoilera pas.
Moi je pense qu'on s'achemine vers une grosse normalisation du personnage.
On est au sommet de l'absurdité, parce qu'effectivement, si Barry prend à la lettre la recommandation qui lui est faite, ça va être encore plus drôle. Enfin, moi j'espère qu'on va éviter les bons sentiments, Joseph.
Je crois qu'on ne va pas du tout vers les bons sentiments, au contraire, ça a l'air d'être de plus en plus délirant, et notamment ce septième épisode, enfin avec Fonzie justement, qui est là, qui essaie de donner des conseils à un moment et qui dit bon, on va laisser tomber. tout est dans ça, c'est une espèce d'absurde qui est assez que je trouve assez magique à la fin. Et surtout, je pense que moi j'aime bien la présence d'Henry Winkler qu'on n'a pas revu.
Non, en tout cas, qui est devenu producteur ensuite à Hollywood. Producteur.
Moi, je savais même pas qui c'était. Hein.
Oui, c'est trop jeune pour avoir vu Happy Days, c'est pour ça.
Et c'est génial de le revoir dans un rôle qui finalement est assez identique, c'est-à-dire que dans Happy Days, il était cette espèce de chef de bande qui disait à tout le monde quoi faire, et là c'est pareil. Sauf qu'il est bedonnant,
il a 70 ans,
il a 70 ans, et c'est toujours le même, et c'est simplement la traversée de cette carrière qui se situe toujours à Los Angeles en Californie, et ça dit quelque chose aussi un peu de manière finalement assez lynchienne de la déconfiture de toute une génération et de tous ces acteurs là.
Bon, Eh ben voilà, on va suivre Barry, il reste plus qu'un épisode, mais pour celles et ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est sur OCS qu'on peut voir à ce jour 7 épisodes de Barry, d'Alec Berg et Bill Hader. Comme chaque soir, après avoir vaillamment live tweeté, Camille André nous rejoint pour le jeu de la dispute. D'abord un rappel de la question du jeu d'hier au soir et sa réponse.
Eh bien, on se demandait hier quelle était la seule peintre américaine à avoir exposé avec les impressionnistes à Paris. Et il s'agit de Marie Cassatt.
Ce soir, des invitations à gagner pour le spectacle de Sea Within de Lisbeth Crevetz, jeudi 17 mai à 21h au Nouveau Théâtre de Montreuil, un spectacle proposé dans le cadre des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Quelle est la question, Camille ?
Eh bien, dans quel film Lisbeth Crevetz interprète-t-elle Bettina, passionnément amoureuse de Marcus, incarnée par Sam Lumbwick ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez également réécouter cette émission, vous abonner à son podcast, préparer vos commentaires pour l'émission de lundi, à poster sur la page Facebook La Dispute FC ou sur le compte, en suivant le compte Twitter Dispute FC. Donc lundi, 19h, dispute spectacle vivant avec à mes côtés Fabienne Pascoe, Anna Sigalevitch et Marie-Josée Sirache. Nous parlerons de À la trace d'Alexandra Badea, mise en scène par Anne Perron, en ce moment au Théâtre de la Colline. Reconstitution de Pascal Rambert, en ce moment au Théâtre de l'Aquarium. Et puis Névrotique Hôtel, spectacle de Michel Faux, en ce moment à l'affiche du Théâtre des Bouffes du Nord.